VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 17 juin 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, attendu aujourd'hui à Abidjan après 10 ans d'absence. Des milliers d'Ivoiriens sont mobilisés pour l'accueillir. Au Burkina Faso, début ce jeudi à Ouagadougou d'un dialogue politique sur la situation sécuritaire avec une multiplication des attaques djihadistes. Boko Haram confirme la mort d'Aboubakar Shekau lors de combats avec la faction rivale du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le Congrès américain a approuvé le 19 juin comme jour férié pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo revient dans son pays après 10 ans d'absence. Il vivait à Bruxelles depuis son acquittement par la Cour pénale internationale. Entre l'aéroport dans le sud d'Abidjan et Atoban, son quartier général dans le nord, son cortège doit traverser plusieurs quartiers où une foule s'est massée pour l'acclamer. Les rassemblements n'ont pas été interdits par le gouvernement, mais ce matin, la police a dispersé tous ceux qui tentaient de se rassembler près de l'aéroport. Yacouba Ouédraogo s'est entretenu avec Aïcha Diarra, notre correspondante sur place.
Nous avons aperçu Laurent Gbagbo à 16h41 exactement. Exactement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët et il s'est dirigé vers le pavillon présidentiel.
À l'aéroport, il faut dire qu'il y a une très bonne ambiance.
En ce qui concerne son itinéraire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo se rendra à son QG de campagne des élections de 2010 à Atoban. Il faut préciser que les festivités pour l'accueil du président Laurent Gbagbo ont démarré depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, mais ils se sont plus intensifiés hier mercredi à Anono, par exemple, un quartier d'Abidjan, les populations se sont réveillées avec le son des tambours qui démontraient toute leur joie. Ces populations, malheureusement, n'ont pu se rendre à l'aéroport pour l'accueil de Laurent Gbagbo parce que dispersées par les gaz lacrymogènes qui étaient lancés par les forces de l'ordre, qui continuent d'ailleurs même d'être lancés. Et c'est dans ce cadre-là que, dans une déclaration de Justin Katina Kone, porte-parole de Laurent Gbagbo, il dit être inquiet pour la sécurité de Laurent Gbagbo vu l'approche des détonations de ces gaz lacrymogènes. Alors il appelle l'État ivoirien afin de pouvoir tout mettre en œuvre pour que cette sécurité-là soit assurée parce qu'il ne doute pas de leur bonne foi. Aïcha Diarra, Abidjan pour VOA Afrique.
Le retour de Laurent Gbagbo a été permis par son acquittement à la Cour pénale internationale et le feu vert d'Abidjan au nom de la réconciliation nationale. De Bruxelles à Yopougon, en passant par Abobo, les réactions divergent. Le point avec Jacques Aristide.
Gbagbo, hein? Ils l'ont attendu à l'aéroport de la capitale belge, mais n'ont pas pu le voir pour des raisons de sécurité. C'était toutefois un départ à ne pas manquer. Serge Kassi, un des partisans de Laurent Gbagbo.
Ça fait 10 ans que nous sommes en exil ici. Ça fait 10 ans que nous sommes aux côtés du président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est à la haie. Et l'occasion nous est donnée de savoir qu'il part à Abidjan. On ne pourrait pas rater cette occasion là, parce que pour nous, il était important qu'on soit là pour lui dire au revoir.
L'ex-président ivoirien de 76 ans vivait à Bruxelles depuis son acquittement par la CPI il y a environ 3 ans. Habiba Touré est l'avocate de Laurent Gbagbo.
Il est comme un homme qui a été privé pendant près de 10 années de rentrer chez lui et qui retrouve la liberté de pouvoir enfin rentrer dans son pays et retrouver les siens. Donc il est dans un état d'esprit, il est content, enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner chez lui. Et il espère, en tout cas il veut jouer sa partition pour essayer de réconcilier les Ivoiriens. Ça lui semble nécessaire.
Des Ivoiriens qui faisaient déjà la fête avant son arrivée. Dans le quartier populaire de Yopougon, c'est le fils prodige qui revient au bercail. Rebecca Niabo, une vendeuse de t-shirts.
C'est d'abord une grande joie de voir le retour de notre père Gbagbo dans son propre pays et pour une réconciliation vraie. Voilà. Nous voulons être réconciliés. Voilà, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire fraternelle. Voilà, c'est ce qu'on veut. Et le retour de Gbagbo va vraiment émerveiller toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, parce que nous serons réconciliés.
Dans le quartier d'Abobo, qui a été le théâtre de violents combats pendant la crise post-électorale, certains habitants croient toujours que Laurent Gbagbo a précipité son pays dans le chaos en refusant sa défaite face à Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Quelques 3000 personnes ont été tuées. Mathurin Kouassi ne s'est jamais remis de ses blessures et a encore du mal à accepter que personne n'ait été condamné pour ces violences.
J'ai dit, il est difficile de pardonner puisqu'on vit la situation. On ne fait rien, on est là. Et nous sommes victimes de cette situation. Donc nous, notre souhait, c'est de trouver une solution pour qu'on puisse pardonner ou bien se pardonner tous. Mais tant qu'on ne trouve pas la solution, on ne peut pas pardonner.
Les proches de Laurent Gbagbo, eux, maintiennent qu'il rentre sans esprit de vengeance, mais plutôt pour œuvrer à cette politique de réconciliation nationale.
L'ancien président Laurent Gbagbo et son parti, le FPI, laissent entendre volontiers que son retour est placé sous le signe de la réconciliation. Que recouvre cette notion ? Jean-Roger Bion a posé la question au député Jean-Gervais Tcheidé, vice-président du FPI.
Le Front populaire ivoirien dit depuis 2011 que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier et de normaliser la vie publique. Donc le terme réconciliation n'est pas nouveau dans notre langage politique et dans nos démarches aussi. Le président Gbagbo était encore à Korogo lorsque nous sommes partis ici à Abidjan. Nous avons déposé un mémorandum auprès du pouvoir en place, directement auprès du président de la République, M. Alassane Ouattara, pour lui dire notre vision de la réconciliation, de comment il faut faire pour que notre pays retrouve un fonctionnement normal au plan social, au plan politique et même au plan économique. Aujourd'hui, après 10 ans, le président Gbagbo, qui a été jugé à la Cour pénale internationale, a été acquitté et donc lavé de toutes les accusations qui pesaient contre lui, revient dans son pays. Et nous sommes partis, nous disions depuis toujours que le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire a besoin de la présence du président Gbagbo, qui est le chaînon manquant de ce processus. Donc, quand il vient effectivement d'abord prendre sa place dans son pays et ensuite travailler à proposer au pouvoir en place pour que nous prenions les actes, que le pouvoir pose les actes qu'il faut et nous avec lui pour que le pays retrouve progressivement la situation nationale.
Qu'est-ce que M. Gbagbo va proposer concrètement au régime, au pouvoir Ouattara?
Alors, d'abord, nous traînons encore, malheureusement, les tares et les conséquences de la crise, la longue crise que la Côte d'Ivoire connaît depuis 2002, en termes de dégâts humains, en termes de dégâts matériels. Par exemple, il y a encore des prisonniers politiques, civils et militaires en Côte d'Ivoire. Il y a des déplacés internes et des exilés externes. Il y a des réfugiés au Libéria, au Ghana, un peu partout. Ces questions qui touchent à l'être humain doivent trouver un traitement rapide et heureux. Ça, c'est déjà la première chose que le Front populaire ivoirien, à sa tête le président Laurent Gbagbo, va proposer. Ensuite, un forum national, parce que nous avons besoin de nous asseoir comme les enfants d'une même famille pour parler, pour que nous fassions l'analyse ensemble de ce qui nous est arrivé, pour que les uns et les autres tirent les leçons et que nous nous prenions de nouveaux engagements pour un nouveau contrat social. C'est ça qu'il faut. Dans n'importe quel pays, une crise aussi grave que celle que nous connaissons depuis 20 ans, il faut s'asseoir pour se parler et prendre des engagements mutuels.
Jean-Gervais Tcheidé, vice-président du FPI en Côte d'Ivoire. Boko Haram a confirmé le décès de son leader Aboubakar Shekau, qui serait mort lors de combats avec la faction rivale État islamique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite par Bakoura Modou, dit Sahaba, le nouveau chef présumé de Boko Haram. Il est l'un des commandants de Boko Haram et il serait basé autour du lac Tchad, selon des experts. Dans cette vidéo, il affirme que Shekau est mort en martyr et accuse le chef de l'ISWAP, Abu Moussab al-Barnaoui, de l'avoir tué et appelle à venger sa mort. La semaine dernière, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avait annoncé la mort d'Aboubakar Shekau, chef historique de Boko Haram depuis la mort du fondateur Mohamed Youssouf en 2009. Shekau se serait fait exploser pendant des combats dans la forêt de Sambisa. Aboubakar Shekau a déjà été annoncé mort plusieurs fois. Le département d'État américain dit ne pas être encore en mesure de confirmer ces informations, ajoutant toutefois qu'elles semblent plus crédibles que les précédentes annonces sur la mort de Shekau.
Au Burkina Faso, début ce jeudi à Ouagadougou d'un dialogue politique sur la situation sécuritaire lancé par le président Roch Marc Christian Kabore. Il réunit des représentants de la majorité et de l'opposition jusqu'à samedi au palais présidentiel. Le contexte appelle notre engagement total, a déclaré M. Kabore en ouvrant les travaux. Au début du mois, au moins 132 personnes ont été tuées à Solande, près de la frontière avec le Mali et le Niger. En visite au Nord Kivu depuis samedi, le président congolais Félix Tshisekedi a défendu l'état de siège et encouragé les habitants de Beni à collaborer avec les forces de sécurité pour vaincre les groupes armés dans la province et en Ituri. La militarisation de la région est un mal pour un bien, a-t-il estimé, disant que l'objectif est la sécurité des populations. Dimanche, il a déclaré à Goma que l'état de siège n'était pas limité dans le temps. Kenneth Kaunda, président fondateur de la Zambie, est décédé à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka où il était soigné pour une pneumonie, a annoncé son fils Kambarage. Il avait dirigé la Zambie de l'indépendance en 1964 jusqu'en 1991.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, républicains et démocrates ont approuvé au Congrès la création d'un nouveau jour férié le 19 juin pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. Les détails avec John Lyndon.
Ce jour représente la liberté, a lancé l'élu démocrate de la Chambre des représentants, Sheila Jackson Lee, l'une des parlementaires qui ont porté le projet de loi pour faire de Juneteenth, contraction de juin et 19 en anglais, un jour férié. La Chambre a adopté ce texte par 415 voix pour et 14 contre, après avoir été approuvé la veille à l'unanimité au Sénat. Devant la vieille photo d'un homme noir au dos lacéré, Sheila Jackson Lee, une Africaine-Américaine représentant le Texas, a parlé du long voyage parcouru jusqu'à ce vote. Le sénateur républicain John Cornyn, lui aussi du Texas, a porté avec elle ce projet de loi. C'est au Texas justement que les derniers esclaves noirs ont appris le 19 juin 1865 qu'ils étaient libres. Le président Joe Biden doit maintenant promulguer cette loi. C'est la première fois que le Congrès adopte un jour national férié depuis 1983 avec la journée Martin Luther King. Le troisième lundi de chaque mois de janvier est chômé et payé pour commémorer le héros de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. En Tunisie, les autorités ont autorisé la présence de fans pour la demi-finale aller de la Ligue des champions CAF, opposant l'Espérance de Tunis à Al Ahly samedi. Ce sera le premier match avec du public depuis le début de la pandémie en mars 2020. 5 000 personnes ont été autorisées à entrer au stade de Rades qui compte 60 000 places. Elles devront porter un masque et présenter un test PCR négatif. Le club égyptien Al Ahly, 9 fois vainqueur en Ligue des champions de la CAF, a éliminé fin mai le Mamelodi Sundowns en 8e de finale. L'Espérance de Tunis a arraché sa qualification au tir au but face aux Algériens du CR Belouizdad. Des nouvelles de l'Euro, l'Ukraine a résisté au retour de la Macédoine du Nord 2-1. Pour se relancer vers les huitièmes de finale, hier, l'Italie a été la première équipe à s'assurer une place en huitièmes de finale après son succès net contre la Suisse 3-0 à Rome, ce qui lui garantit à minima la deuxième place du groupe A. Dans cette même poule A, les Gallois y sont presque. Le pays de Galles a pris une très belle option sur les huitièmes de finale en l'emportant 2-0 contre la Turquie. Ils sont deuxièmes du groupe A avec 4 points. Cette deuxième journée de la phase de groupe a débuté hier par la courte victoire de la Russie face à la Finlande 1-0 à Saint-Pétersbourg. Le capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos, a fondu en larmes ce jeudi en déclarant que son départ du club merengue est l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an avec un salaire inférieur, mais je voulais 2 ans, a expliqué le joueur de 35 ans. Finalement, j'accepte l'offre avec la réduction du salaire et on me dit qu'il n'y a plus d'offre. On me dit que l'offre a une date d'expiration dont je n'avais pas entendu parler. Renchéri Ramos, arrivé en 2005 au Real Madrid à 19 ans en provenance du FC Séville, le capitaine légendaire de la Maison Blanche a disputé 671 matchs, marqué 101 buts et gagné 22 titres avec le club madrilène, dont 4 Ligues des Champions et 5 titres de champion d'Espagne. NBA, les champions de la saison régulière Utah et les Philadelphia Sixers sont aux portes de l'élimination en demi-finale après leur défaite à domicile. Bagassi Koura.
Oui, à Salt Lake City, Paul George a été le héros des Clippers en passant 37 points à l'équipe à Utah pour une victoire 111 à 119. Les Clippers mènent la série à l'ouest, 3 victoires à 2. Dans l'autre demi-finale, dans la conférence Est, les Atlanta Hawks, en retard de 26 points en début de troisième quart-temps, ont réussi un comeback de folie pour s'imposer 109 à 106 face à Philadelphie. Atlanta mène la série 3 victoires à 2. Pour se sauver, le Jazz comme les Sixers devront impérativement remporter le 6e match de leur série. Ce sera vendredi à l'extérieur.
Merci, Bagassi.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Comme annoncé dans notre journal, Boko Haram a confirmé la mort de son leader, Aboubakar Shekau. Son décès avait été annoncé le 6 juin par la faction rivale État islamique en Afrique de l'Ouest. Le département d'État américain a dit ne pas avoir pu confirmer l'information, tout en précisant qu'elle semble plus crédible que les multiples annonces précédentes le disant mort. Claire Morin-Gibourg a joint Léon Kungu, spécialiste des questions de défense et de sécurité dans le Sahel.
Aboubakar Shekau, il a toujours été annoncé mort à 5 reprises, notamment depuis 2013. Et il convient de souligner que ces annonces ont toujours été faites par les États, notamment le Nigeria, à dire lancé à sa poursuite. Mais ce qui paraît un peu plus crédible aujourd'hui, c'est que l'annonce de sa mort, elle est apparue il y a presque 2 semaines par la branche rivale, elle est dirigée par Barnawi. Et il y a presque 24 heures, cette mort a été confirmée par ses propres troupes, en l'occurrence par Bakour Amadou, qui reprend donc la place de Aboubakar Shekau. Voilà pourquoi on peut attacher, c'est-à-dire un certain crédit à cette annonce. Donc aujourd'hui, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Aboubakar Shekau a disparu.
Alors bien sûr, il y a un chef qui va prendre sa place, mais pour vous, et même si c'est très très difficile de se projeter dans l'avenir, quels sont les impacts pour la sous-région?
Dans l'organisation terroriste, c'est-à-dire c'est l'élimination d'un chef n'amène pas la disparition du mouvement. C'est-à-dire cela se présente comme l'icône de l'ère de la mythologie grecque. Quand on coupe une tête, il y a une ou plusieurs qui apparaissent au même endroit. Mais il convient de souligner que l'ISWAP, c'est-à-dire la branche islamique en Afrique de l'Ouest, va prendre du terrain, c'est-à-dire va prendre du terrain si elle réussit à convaincre les combattants de Shekau, mais ce ne sera pas chose facile, puisqu'il convient quand même de souligner que depuis 2 ans, et depuis pratiquement 4 ans et la fragilisation possible de Boko Haram, certains combattants ont voulu rallier l'État islamique en Afrique de l'Ouest. D'autres sont restés très fidèles à leur leadership, notamment Modou Bakoura, c'est-à-dire qui évolue auprès du Lac Tchad. Donc ce ne sera pas facile, c'est-à-dire pour l'ISWAP, de rassembler tout ce monde afin de créer le califat, c'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu faire dans cette région. Mais néanmoins, dans les jours à venir, il va falloir assister à des combats très intenses entre les différentes mouvances, parce que Boko Haram, maison mère, est animée par un esprit de vengeance. Il va falloir venger le chef, mais aussi l'ISWAP, c'est-à-dire l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui a éliminé ce leadership rival, s'attellera à consolider son territoire et pourra avoir pour objectif encercler la ville de Maïdougouri, qui, il faut quand même le souligner, c'est-à-dire compte plus d'un million d'habitants et qui était jusque-là la base arrière de Boko Haram.
C'était l'universitaire Léon Kungu, spécialiste des questions de sécurité dans le Sahel.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les partis de la majorité et de l'opposition ont débuté ce jeudi à Ouagadougou un dialogue politique consacré à la situation sécuritaire dans le pays. Lancées par le président Kaboré, ces concertations, qui se poursuivront jusqu'à samedi, se tiennent alors que le pays est encore sous le choc du massacre à Solon, qui a fait au moins 132 morts, une quarantaine de blessés et plus de 7000 déplacés. Yacouba Ouédraogo a joint dans la capitale burkinabé l'analyste politique Lionel Bilgo.
Ce n'est pas la première fois que cela se fait dans notre pays. Et également, les textes en la matière préconisent une rencontre entre les partis affiliés à l'opposition et les partis affiliés à la majorité pour un dialogue quand il s'agit de questions pour la nation. Et je crois également que les questions qui seront abordées sont des questions qui requièrent en tout cas le consensus. Et le président du Faso n'avait pas autre choix en tout cas que de mettre autour d'une même table tous les acteurs politiques pour aboutir à ce consensus-là. Je rappelle que ce dialogue va permettre la relecture du code électoral à la minima. Ce dialogue va poser la question du redécoupage territorial au Burkina Faso, de revoir la loi sur le quota genre en matière de représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles. Et donc, du coup, toutes ces questions sont quand même des questions assez importantes pour que ce soit le seul désir des partis affiliés à la majorité qui puissent donner un cap apaisé.
On sait que l'opposition a toujours réclamé cette question de réconciliation nationale comme facteur pouvant aider à lutter contre l'insécurité dans le pays. Ce dialogue a lieu, vous l'avez dit, c'est pas la première fois, mais pensez-vous qu'il puisse ressortir quelque chose qui puisse aider justement dans ce sens?
Même si on est tous d'accord, opposition comme majorité, qu'il faut aller à la réconciliation, la formule n'est pas aussi bien partagée par chaque camp. Quand le pouvoir en place parle du triptyque vérité, justice et réconciliation, le camp de l'opposition semble parler d'une certaine forme d'absolution, en tout cas des péchés, de certaines personnes pour faciliter justement l'avènement de cette réconciliation-là. Dans le fond, oui, tout le monde est d'accord qu'il faut aller à la réconciliation, mais dans la forme, les moyens d'y parvenir, il y a divergence totale. Et je ne crois pas que c'est autour de ce dialogue actuel-là qu'il y aura une harmonisation, en tout cas, du point de vue de la forme.
Parlant de réconciliation, on l'entend très souvent, hein, des gens qui évoquent le retour, par exemple, de Blaise Compaoré ou encore une éventuelle sortie de prison du général Gilbert Diendéré qui pourrait aider, hein, à lutter contre cette question d'insécurité. Est-ce que vous y croyez?
Moi, je crois surtout que l'exil ou la prison n'empêche pas de participer en tout cas, ou d'aider en termes de réflexion à lutter contre le terrorisme. Mais le besoin, en tout cas, de retour du président Blaise Compaoré, je le partage. Et je partage aussi l'idée qu'un retour du président Blaise Compaoré serait salutaire pour amorcer justement réellement et véritablement cette réconciliation. Et je sais également qu'en temps de crise, aucune ressource humaine n'est à négliger, quel que soit justement l'état ou la situation dans laquelle cette ressource humaine est au moment où la crise ou le drame se joue. Moi, j'en appelle justement à une écoute active de toutes les valeurs sûres du point de vue de leur expectative ou de leur expérience dans le domaine de la sécurité pour justement qu'on puisse arriver à lutter contre l'insécurité. Le drame qui arrive au Burkina n'est pas une question en tout cas d'exilés, de prisonniers, d'opposition ou de majorité. Le péril est tellement visible que nous devons avoir un sursaut national et surtout un dépassement de soi pour y parvenir. Donc je crois vraiment qu'il faut de la part de ceux qui gouvernent une écoute active, une ouverture large des concertations et de la part aussi de ceux qui ne gouvernent plus aujourd'hui un désir de participer justement à l'effort de guerre.
Le politologue Lionel Bilgo était joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les États-Unis sont confrontés à une menace domestique croissante d'extrémistes violents, selon un document publié par l'administration Biden. Cet avertissement intervient alors que le Congrès continue d'enquêter sur la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier par des partisans de l'ancien président Donald Trump. Un reportage de la correspondante de la Voix de l'Amérique au Congrès, Catherine Gibson, relaté par Eric Manirakiza.
5 mois après l'attaque contre le Capitole, l'administration Biden a défini une stratégie pour contrer la menace que représente l'extrémisme intérieur. Merrick Garland, ministre de la Justice des États-Unis.
In the FBI's view, the top domestic violent extremist threat comes from...
De l'avis du FBI, la principale menace extrémiste violente intérieure provient d'extrémistes à motivation raciale ou ethnique, en particulier ceux qui prônent la supériorité de la race blanche.
Monsieur Garland affirmait que personne aux États-Unis ne sera poursuivi pour ses convictions politiques non violentes.
Il n'y a pas de place pour la violence comme moyen de résoudre les différences politiques dans notre démocratie. Les problèmes à long terme qui ont contribué au terrorisme intérieur en Amérique doivent être abordés pour s'assurer que cette menace diminue pour les générations à venir afin de désamorcer les causes sous-jacentes des attaques terroristes intérieures.
Après l'assaut du 6 janvier, il y a eu plus de 500 arrestations. Les démocrates affirmaient que les émeutiers étaient motivés par les fausses allégations de fraude électorale de l'ancien président Trump. Caroline Maloney est du Parti démocrate.
Après l'échec de ses efforts pour faire pression sur le ministère de la Justice, le président Trump est devenu encore plus désespéré et donc, le matin du 6 janvier, il a envoyé une foule en colère au Capitole. L'objectif était d'utiliser la violence pour empêcher le Congrès de certifier que Joe Biden avait gagné l'élection.
Christopher Wray, directeur du FBI, a reconnu devant les législateurs cette semaine que son agence n'avait pas su anticiper cette attaque.
Notre objectif est de frapper 1000 fois et chaque fois qu'il y a une attaque, et encore au moins une attaque aussi horrible et spectaculaire que ce qui s'est passé le 6 janvier. Nous considérons que c'est inacceptable.
Selon la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, un rapport du Sénat publié au début du mois a révélé de multiples défaillances en matière de renseignement et de sécurité avant cet assaut.
Trois unités liées au renseignement au sein de la police du Capitole étaient au courant de messages sur les médias sociaux appelant à la violence au Capitole. Mais la portée complète de ces avertissements n'est jamais parvenue à la direction de la police du Capitole, aux agents de base ou aux partenaires chargés de l'application de la loi. Il y avait également des rapports contradictoires sur cette menace.
Alors que plusieurs commissions du Sénat poursuivent leurs travaux sur la réforme de la police du Capitole, les républicains du Sénat ont bloqué la tentative des démocrates le mois dernier de former une commission d'enquête sur les événements du 6 janvier.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la première visite chargée de Joe Biden à l'étranger depuis sa prise de fonction. Après avoir pris part à une rencontre du G7, le locataire de la Maison Blanche a participé au sommet de l'OTAN avant son face-à-face avec le président russe Vladimir Poutine. Pour l'administration Biden, ce voyage marque le retour de Washington dans son rôle de leadership mondial et une manière de réparer ses relations avec ses alliés traditionnels. De l'Amérique sous Biden et le reste du monde ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Congrès américain a approuvé un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage. Dans un rare moment d'union, les républicains et démocrates se sont mis d'accord sur la date du 19 juin pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. Rosine Munezero a joint Mohamed Mobj, professeur d'histoire au Collège Manhattan à New York.
Oui, c'est une date historique, ce qu'elle est le jour où, disons, le dernier point du territoire américain a été informé de l'abolition de l'esclavage par le président Lincoln suite aux événements de la guerre civile. Donc, c'est un coin assez reculé du Texas qui était membre de la Confédération, donc des États du Sud qui s'étaient rebellés contre l'Union. Et donc le général Granger, donc le 19 juin 1865, a annoncé par proclamation générale la fin de l'esclavage dans cette zone du Texas et qui finalement est donc la dernière zone du pays où l'esclavage était encore pratiqué.
Mohamed Mod, j'ai professeur d'histoire au Collège Manhattan à New York. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.